France Guimaroche est heureuse de vous retrouver pour l'écho de ma commune, une émission soutenue par le Conseil Général. Bonjour, chers auditeurs. Je reçois à nouveau dans nos studios de Radio Grand Ciel, Monsieur Olivier Marleix, député d'Eure-et-Loir et maire d'Annette. Nouveau sujet pour débuter cette émission, Monsieur Marleix, la loi Sapin 2. Vous avez demandé au gouvernement de rassurer les épargnants face au nouveau dispositif permettant de bloquer les retraits des contrats d'assurance-vie. Alors, je sais que ça paraît intéresser beaucoup de monde. Il s'agit de la loi Sapin 2. Vous aviez fait cette intervention, vous étiez inquiet.
Oui, parce que dans cette loi, effectivement, le gouvernement s'est octroyé le droit de pouvoir bloquer les fonds d'épargne collectés par l'assurance-vie. L'assurance-vie dans notre pays, ce sont des dizaines de milliards d'euros, c'est le placement favori des Français, et je trouvais assez extravagant quand même d'aller créer une inquiétude dans un des rares placements qui marchent en France, en disant aux Français, attention, votre épargne, vous pourriez peut-être ne pas la revoir. Donc malheureusement, les dispositions ont été votées, ça a été un peu amélioré par le Sénat. En tout état de cause, on a réussi à créer de l'inquiétude, puisque quand ces dispositions étaient amenées, on a observé une chute du placement momentané de l'assurance-vie. Je
pense déjà, sur les caisses d'épargne, ce n'est pas terrible. Ils ont baissé beaucoup leur épargne, mais en fait, le taux est confidentiel.
Voilà, donc non, le gouvernement, une fois de plus, de mon point de vue, évidemment, a raté une bonne occasion de se taire. Cette mesure de blocage des fonds, elle a d'autant moins de sens que même pendant la crise sismique de 2008-2010, on n'a pas eu besoin de cette mesure. Je ne sais pas pourquoi on en aurait besoin aujourd'hui.
Nous avons vu les sujets nationaux. Est-ce qu'on pourrait aborder les sujets locaux ?
Oui, alors sur les sujets locaux, le député doit aussi relayer et se battre pour des sujets locaux. Il y en a deux ou trois sur lesquels je me suis particulièrement investi. Je pense à la situation de l'hôpital de Dreux, qui est un sujet qui préoccupe beaucoup les Drouais, avec un hôpital qui malheureusement a un petit peu l'art de renvoyer de manière ou d'une autre une mauvaise image de lui-même, alors que qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Donc j'ai obtenu par du gouvernement l'annonce cette année d'un soutien à l'investissement, avec une subvention de près d'un million d'euros accordée à l'hôpital de Dreux sur de l'investissement, notamment des travaux d'urgence qui étaient à faire. Et puis l'hôpital est aussi autorisé pour l'année 2017 à renouer avec l'emprunt, à faire un emprunt de 3 millions d'euros pour commencer à réinvestir. Donc ce qui est important à travers ces deux décisions, c'est surtout le signal qui a été envoyé par l'État que l'hôpital de Dreux, qui a fait un plan d'économie extrêmement important, un peu dur, mal ressenti par le personnel, qui a vu des lits se fermer un peu partout dans beaucoup de services et qui se dit qu'est-ce qui se passe.
Alors combien de lits sur le plan national?
Oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'extinction programmée de notre hôpital? Je crois qu'à travers ces deux décisions concernant l'investissement, l'État a quand même envoyé le message très clair qu'il y a un effort de rééquilibrage à faire, mais que l'hôpital était autorisé de nouveau à se projeter dans l'avenir à travers des investissements. Alors on a un gros, au-delà de ces deux décisions, il y aura un gros chantier évidemment devant nous. Bon, ça passera sans doute par la question de la réforme de l'hôpital. Qu'est-ce qui plombe les hôpitaux en France? Il faut avoir le courage de le dire, hein. Ça a été le passage aux 35 heures. En réalité, on a, en passant de 39 à 35 heures, on a totalement désorganisé l'hôpital. Il n'a pas eu les moyens financiers d'accompagner par une politique de recrutement massive. Donc les conditions de travail des personnels se sont dégradées. La fatigue est là chez beaucoup de personnel. Des taux d'absentéisme malheureusement extrêmement importants. Donc il faut revenir.
Et à cause de ces horaires quand même extrêmement faibles, je ne dis pas pour la somme de travail qu'ils doivent produire, mais je connais un jeune médecin, une jeune femme qui est anesthésiste, qui me disait que si elle devait prendre tous ses RTT, elle pourrait arrêter maintenant, quoi.
Bien sûr, non, il faut évidemment surtout pas.
L'hôpital est incapable de.
Voilà,
payer
il faut surtout pas traverser incriminer les personnes qui, eux, du coup, font beaucoup parce que ils sont obligés de faire face au dysfonctionnement. Mais l'invention de cette invention des 35 heures à l'hôpital a créé de la désorganisation, de l'organisation complète, a renchéri. En clair, quand vous passez de 39 à 35, ça doit faire une réduction de 17% des moyens. Voilà, de 17% des moyens. Donc derrière, il faut les combler. Comme il n'y a pas eu les moyens pour les combler, bah on a un énorme problème de désorganisation, de renchérissement du coût du travail.
C'est déjà très élevé.
Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans cette situation aberrante où on réduit le service public pour réparer ce problème. C'est totalement aberrant. Donc ça devra être là aussi un des chantiers du prochain quinquennat.
Alors sur les 3 millions, je vois que l'hôpital s'équipe d'un deuxième IRM dernière génération. C'est une bonne chose. Il y a l'équipement, bien sûr, qui est très important. Mais il y a aussi, évidemment, le personnel. Il faut quand même qu'il y ait suffisamment de gens dans les services pour pouvoir faire face à la somme de travail. Là, on a eu un épisode de grippe. Je ne sais pas dans quel état étaient l'hôpital et les urgences, mais...
Oui, alors il y a sur les urgences un problème particulier qui est encore plus fort à Dreux qu'ailleurs, déjà parce que les urgences, on le sait toujours dans notre pays, comment dire, une attractivité aussi parce qu'il
n'y a pas assez de médecins de ville.
Alors oui, puis déjà il y a la question de quand vous allez voir votre médecin de ville, il faut avancer le prix de la consultation. Alors c'est moins le cas avec le tiers payant généralisé, mais du coup une habitude de consommation de services d'urgence a été prise par beaucoup de nos concitoyens,
et
évidemment,
pourtant, on attend
donc qui engorgent. Et puis il y a ce second problème que vous évoquez, qui est effectivement que la démographie médicale, qui est assez catastrophique sur notre territoire, fait que les gens fréquentent les urgences à défaut de pouvoir avoir un rendez-vous chez un médecin, ou ne trouvent plus de médecin le week-end, donc vont aux urgences.
Est-ce qu'il y a assez de médecins formés actuellement, ou est-ce que le numerus clausus est toujours en vigueur?
Alors il y a toujours un numerus clausus, simplement il a été desserré de manière importante ces dernières années, puisqu'on est remonté à autour de plus de 8000 médecins par an ces dernières années.
Mais ça reste insuffisant.
Vous vous souvenez que la réforme Juppé de la Sécurité sociale en 1995 avait réduit le numerus clausus à 4500. Voilà, donc sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, à partir de 2008, on est remonté à 7500, 8000, 9000. Donc on a doublé le numerus clausus. Mais malheureusement, aujourd'hui, la situation est très tendue parce que nous avons la génération des médecins baby-boomers, si je puis dire, qui part à la retraite. Et arrive sur le marché la génération fantôme qui n'a pas été formée à cause de ce numerus clausus réduit dans les années 95. Donc voilà, on est dans une période très critique. Alors dans cette période critique, je pense qu'il faut prendre des mesures un peu énergiques. Moi, je suis à l'origine, avec Philippe Vigier, d'une évolution très importante qui existait dans notre droit, mais dans le code de la santé publique. En fait, aujourd'hui, vous savez, les médecins qui ont terminé leurs études, mais qui ne sont pas encore forcément thésés, donc ils ne sont pas encore docteurs en médecine, mais ils ont terminé leur troisième cycle de médecine, donc ils sont totalement formés, on va dire. Eh bien, ils étaient autorisés uniquement à faire des remplacements ou à travailler de manière très très ponctuelle.
Alors que la thèse, c'est la cerise sur le gâteau.
C'est la cerise sur le gâteau. Donc ils sont médecins et ils sont déjà d'excellents remplaçants. Simplement, le remplaçant, vous n'avez pas grand chose à faire, puisqu'en fait, c'est un pour un. C'est pendant que votre médecin est en vacances, vous avez un remplaçant. Mais globalement, ça ne règle pas le problème de la pénurie médicale. Donc ce que j'ai obtenu, c'est que la ministre de la Santé fasse vraiment, donc à notre initiative, à Philippe Vigier et à moi-même, prennent une circulaire pour dire oui, les dispositions du Code de la Santé publique qui autorisent aujourd'hui les médecins non thésés à faire des remplacements dans des cas de déficit grave, comme c'est le cas en Eure-et-Loire aujourd'hui, comme c'est le cas notamment sur le Douai,
peuvent être autorisés. On subit une désertification médicale sur le Douai.
Oui, bien sûr, on est à moins de 90 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Vous savez que la région centre est celle qui a, derrière de toutes les régions de France, qui a la plus faible taux de médecins. L'Eure-et-Loire est dans cette région celui qui a le plus faible taux de médecins, et l'agglomération de Dreux est la dernière du dernier département de la dernière région de France. Donc effectivement, c'est pas glorieux. Donc nous avons obtenu que ces médecins, que ces étudiants qui ont terminé leur cycle pourront être médecins collaborateurs à temps plein, en plus d'un médecin, pas en remplacement, mais en plus. Donc ça veut dire qu'on aura, et un arrêté a été pris par le préfet d'Eure-et-Loir, qui fait que nous sommes le premier département en France où ces mesures peuvent très concrètement être mises en œuvre. Donc c'est une vraie opportunité pour nous, parce qu'on est le département en même temps.
Ça va être fait dès à présent.
Le préfet a signé son arrêté début janvier. Donc on est le département le plus proche de Paris à avoir cette possibilité. Donc c'est vraiment la possibilité très concrète d'accueillir, je l'espère, dans les mois qui viennent, quelques médecins. Ce sera des à l'unité, ce sera pas des dizaines de médecins, mais quelques médecins supplémentaires, notamment le temps de faire cette jonction et d'arriver à retrouver un numerus clausus un peu plus, enfin des générations produites de ces années où le numerus clausus a été un peu desserré.
Et l'Eure-et-Loir va être suffisamment attractif pour que les médecins se précipitent?
Alors, en tout cas, proche de Paris, on est quand même le seul département à offrir cette possibilité. Hein. Ils ne peuvent pas exercer en région parisienne, parce qu'on n'est pas déficitaire en région parisienne. En revanche, chez nous, on l'est, donc ils peuvent. Il y a quand même une ligne de train qui fait que c'est assez facile de faire l'aller-retour pour deux jours. Ce à quoi j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est effectivement, pour n'avoir aucun frein, c'est éventuellement, au niveau de l'agglomération, à pouvoir apporter une aide au logement très concrète pour être sûr que...
Ça doit être facile.
Juridiquement, c'est faisable, donc voilà, j'aimerais qu'on y travaille.
Oui, parce que j'ai un ami médecin qui me disait qu'il était très préoccupé parce qu'en fait, la plupart des médecins qui sortent de l'université préfèrent être salariés.
Oui, bien sûr. C'est le rêve de tous les médecins. Alors déjà, il y a une évolution par rapport à ce qu'on a connu dans les générations précédentes. Il faut savoir que plus de 60% des étudiants en médecine sont des étudiantes. Donc très clairement, leur rêve, quand elles ont fait leur 10 années de médecine, d'études, c'est pas forcément d'aller acheter des parts de sociétés civiles, professionnelles, quelque part, de mettre leur pas et de devenir médecin de campagne. C'est d'abord d'avoir une vie de famille, de se fonder une vie de famille. Et donc, voilà, on est sur un modèle humain
aussi,
qui n'est plus exactement celui qu'on a connu il y a 30 ou 40 ans. Puis effectivement, l'hôpital est d'abord la solution la plus attractive pour beaucoup de médecins qui rêvent de faire des carrières hospitalières, parce qu'ils sont formés avec une espèce d'image de l'hôpital qui est perçu comme le summum, l'excellence, etc. C'est ce qui est vrai, mais la médecine de ville, c'est aussi extrêmement, extrêmement important, une mission extrêmement, extrêmement noble.
Que fait l'Europe pour, par exemple, subventionner des maisons médicales, la construction, là, il y a des aides?
Oui, il peut y avoir des crédits du FEDER, effectivement, au titre de l'aménagement du territoire. Enfin, pour l'instant, elle ne s'en mêle pas trop, autrement des sujets médecine. Je crois qu'il ne faut pas demander à l'Europe non plus de se mêler de tout. Je crois que le problème de notre pays. Donc, je ne suis pas partisan du tout Europe, et si l'Europe pouvait ne pas s'en mêler, je crois que ça nous arrangerait bien.
Monsieur Marleix, vous êtes également le premier magistrat d'Annette. Et en cette qualité, j'aimerais que vous nous racontiez un peu la vie de votre ville. J'ai eu l'opportunité très récemment de rencontrer quelqu'un d'Annette, enfin, qui a une boutique à Annette. Mmh. C'est la ferme de la Garenne. Et j'ai goûté une spécialité extraordinaire, une spécialité de foie gras, qui est le feuilleté de foie gras aux figues. Une merveille. Oh. Et il y a beaucoup d'artisans, j'imagine, Annette. Eux, je les trouve remarquables. Est-ce que vous avez beaucoup de gens comme eux ?
Il y en a quelques-uns, oui, c'est assez formidable. On a la chance d'avoir en centre-ville quelques commerçants qui, effectivement, dont la renommée font l'attractivité aujourd'hui commerçante d'Annette. On a un formidable pâtissier, M. Vitre, et un autre boulanger pâtissier aussi à côté. Mais on a ces agriculteurs, effectivement, qui ont un élevage de volailles et qui font des formidables produits de la ferme, qui ont installé leur boutique, donc la ferme de la Garenne. Je pense que c'est à eux que vous pensez.
C'est ça.
Voilà, on a une jeune femme qui vient de s'installer à Annette aussi, qui fait des chocolats qui est ouvert, qui s'appelle Armel au Barbier. Enfin, on a la chance d'avoir et on essaie d'aider à s'installer, à se développer ces commerçants qui sont vraiment dans l'esprit de ce qui fait le succès du commerce d'un petit centre-ville, qui sont des métiers de bouche qui font des choses un tout petit peu mieux que ce qu'on trouve en grande surface, même beaucoup mieux, on peut le dire.
Vous avez combien d'habitants, Annette ?
Annette, 2800 habitants, donc c'est toute petite ville, mais c'est vrai que la singularité d'Annette, enfin, on essaye de préserver cette une singularité. Le grand défi de l'équipe municipale, c'est d'éviter la banalisation et d'éviter la devenir une ville de banlieue parmi d'autres de cette grande banlieue. On est à trois quarts d'heure de Paris, à 70 km de Paris. Donc on est dans cette troisième couronne. Et vraiment, l'idée, c'est d'échapper à cette banlieurisation qui finalement homogénéise un peu tout, fait que tout se ressemble. On a la chance d'avoir autour de ce château un héritage tout à fait exceptionnel. Et donc on veut cultiver cette singularité. Alors on le fait avec des commerçants, des artisans comme ceux que vous avez cités. On le fait aussi, et c'est toute l'action de la municipalité depuis de nombreuses années, bien avant que je sois maire, d'essayer de garder ces quelques éléments, d'avoir une politique culturelle assez anormale, on peut le dire, assez étonnante, avec par exemple un cinéma municipal géré en régie, avec quatre séances par semaine. Cinéma tout à fait confortable qui avait été refait par mon prédécesseur. Nous avons accompagné son évolution.
Ça, c'est cinéma, original.
Un cinéma qui est passé au numérique, qui diffuse des films 3D et qui fonctionne très bien, qui offre. Alors qu'il y a un petit peu de mal, on se bat pour avoir les sorties en même temps que tout le monde. Mais bon, la logique commerciale fait que les grandes salles sont mieux servies que les petites. Mais voilà, on a ce cinéma en proximité.
Certainement très apprécié.
Bah oui, bien sûr, très apprécié par... Vous avez des gens qui vont voir, c'est assez touchant, c'est sympathique, qui viennent voir tous les films, y compris, enfin des adultes, hein, qui viennent voir tous les films, y compris des dessins animés. Et donc, on a ils ont compris que c'était une chance d'avoir un cinéma et on a la chance de pouvoir mener une politique tarifaire très, très attractive avec des entrées pour les enfants à 4 euros et pas beaucoup plus pour les adultes.
On va le faire savoir à Eddy Mitchell parce qu'il n'y a pas de dernière séance à Annette. Voilà, c'est merveilleux.
L'histoire continue. On a une bibliothèque alors qui c'est un peu moins original, mais enfin, elle est ouverte quand même pour une commune de 2800 habitants. Elle est ouverte 6 jours sur 7, donc c'est quand même pas mal. Grâce à l'association d'une douzaine de bénévoles et d'une professionnelle, il y a des animations très régulièrement. Et puis, il y a des salles de lecture qui sont tout à fait étonnantes. Grâce à un leg qui a été fait à la commune, vous pouvez lire vos livres, alors, soit dans les espaces de lecture traditionnels, soit dehors au beau jour dans un très joli jardin, ou dans deux petites salles qui ont été meublées grâce à monsieur Gourmand, qui a fait un leg à la commune, mais dans le leg, excusez du peu, vous avez un très joli tableau de Vlaminck, vous avez une tapisserie de Picasso, vous avez d'autres petits chefs-d'œuvre, et donc vous pouvez prendre un bouquin dans la bibliothèque et vous installer dans cet endroit. Donc voilà, un endroit aussi petit peu exceptionnel pour une petite commune de 2800 habitants. Et puis, donc le cinéma, cette bibliothèque avec ses animations, une association des amis d'Annette qui a fêté son centenaire et qui organise tous les lundis soirs un cycle de conférences là aussi assez étonnant. On a la chance d'avoir notamment un professeur de littérature de la Sorbonne qui fait régulièrement des conférences, qui est le président de l'association mondiale des amis de Rimbaud, donc excusez du peu, des conférences de très haut niveau. Et puis surtout enfin le Dianetum quand même qui est donc la locomotive de la politique culturelle communale, donc pour une commune de 2000 de 1800 habitants, une salle de spectacle de 500 personnes, ça peut paraître un peu ambitieux, on s'est un peu moqué de nous quand on l'a faite. Et finalement, bah, cette salle, elle rencontre un immense succès. On a une programmation qui marche très très bien.
J'y suis allée pour écouter l'harmonie de Bue. Un orchestre, en fait.
Alors, c'est un orchestre local, donc on essaye de faire effectivement une programmation la plus éclectique possible, avec à la fois des têtes d'affiche nationales. Vous avez eu cette année Joyce Jonathan, par exemple. Vous avez eu le jeune Vianney, qui est un des grands
Il a le
talents
vent en poupe.
qui monte. On a eu Carla Bruni il y a 2 ou 3 ans. Enfin voilà, je ne vais pas faire toute la programmation, mais donc on a à la fois des artistes très renommés. On aura bientôt au printemps Enrico Macias dans sa nouvelle
Mais c'est
tournée. Enfin voilà,
sympathique.
on a une programmation très très éclectique, jeune, moins jeune. On a du théâtre. Et on essaye d'avoir à la fois professionnel, amateur, d'avoir aussi des locaux, etc. Et l'idée, c'est d'amener le public à goûter aussi un peu à tout, à s'intéresser à la culture, grâce à des têtes d'affiche, mais pas que. Voilà.
Vous nous avez vraiment donné envie de voir Annette et d'y aller, et de s'y promener et de visiter. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'était très
Merci.
Sympathique, cette petite visite. Les habitants s'appellent comment?
Les Annetais.
Les Annetais.
Oui. Les anothèses.
Alors, dernière petite question, monsieur Marleix. Que pensez-vous de l'élection de Donald Trump? Est-ce que justement, ça va poser des problèmes à l'Europe, à la France en particulier?
Bon, déjà, je pense qu'il faut quand même un tout petit peu. Bon, ce qui est sûr, il est assez surprenant, ne serait-ce que par sa coiffure, par son look et par ses propos. Après, faut pas regarder ça non plus avec nos yeux européens. C'est-à-dire que on a une vision déformée. Les médias français adoraient Obama plus que les Américains eux-mêmes n'aimaient Obama.
Et c'était le même phénomène pour John Fitzgerald Kennedy.
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc il y a toujours cette espèce de regard un peu décalé sur les États-Unis. Il y a eu un phénomène Trump. Il a écrasé tous ses rivaux dans la primaire des Républicains. Il a gagné cette élection extrêmement largement. Alors oui, c'est un système fédéral, donc évidemment il a eu moins de voix, mais enfin c'est la règle du jeu. Tout le monde, chacun la connaît. Voilà. Mais enfin, relativisons tout ça, respectons le choix des Américains et évitons les caricatures comme on sait si bien les faire, comme on les fait aussi avec Vladimir Poutine, par exemple, en Russie, où on le présente comme une espèce de grand Satan. Je pense qu'il faut tout ça être beaucoup plus subtil et compliqué.
En ce qui concerne la Russie, est-ce que ça n'a pas été extrêmement préjudiciable pour les agriculteurs, entre autres, tous ceux qui voulaient exporter et qui sont tombés sous le coup d'un blocus?
Bien sûr, ce qui a été préjudiciable, c'est l'alignement français totalement aveugle à la position américaine, effectivement, qui a voulu ce blocus avec la Russie. Ce qu'il faut savoir, et là, pour le coup, c'est un aspect plutôt positif de l'élection de Donald Trump, c'est que on était depuis quelques années dans une véritable escalade, un retour à la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Et ça, c'était quoi? C'était le produit de l'administration de Madame Clinton au Département d'État, qui était extrêmement, entre guillemets, va-t-en-guerre, notamment porteuse de cette idéologie des droits de l'homme qui anime souvent les Américains et qui font que par moment ils sont isolationnistes et par moment ils sont donneurs de leçons à la terre entière de manière plus ou moins habile. Et effectivement, l'administration Obama-Clinton a été une période extrêmement interventionniste et a été une période à l'origine d'énormes tensions avec la Russie de M. Poutine, notamment parce qu'effectivement on leur donnait peut-être un tout petit peu trop de leçons. Donc moi, je me réjouis plutôt, c'est un des aspects, vous voyez, assez inattendu qu'il puisse y avoir entre Trump et Poutine une sorte de désescalade. Ce sont deux grandes puissances, oui, il y a des sujets de rivalité, mais voilà, les intérêts bien compris de l'un et de l'autre font partie de la règle du jeu de la relation entre toutes les grandes nations qui ont des prétentions à des puissances au moins régionales, voire mondiales.
Voilà. Donc l'Europe et la France en particulier profitera de cette
le vrai fait nouveau, c'est pour l'Europe, c'est ce qu'a dit Donald Trump dans son discours d'investiture, c'est que en clair qu'il en avait marre que les Américains payent la défense européenne. Donc là,
ça
on a un sujet.
Ça permettra peut-être à la défense européenne d'exister.
De se constituer enfin. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. On a un vrai sujet. Et c'est peut-être l'occasion de recentrer l'Europe. Je fais partie de ceux qui considèrent que l'Europe, sous l'effet d'une administration européenne un peu pléthorique et pas assez contrôlée en réalité par les États, par les gouvernements et notamment par le gouvernement français qui historiquement un peu toujours et la haute administration française qui a un peu boudé ce qui se passait en Europe. On a laissé l'Europe et son administration prendre des compétences qu'elle n'aurait jamais dû prendre, aller beaucoup trop loin dans l'exercice de certaines compétences. Donc il faut réduire le champ d'intervention de l'Europe à l'essentiel et l'amener à s'intéresser à l'essentiel, notamment la défense européenne, ou au moins considérer que les efforts budgétaires financiers faits par les quelques grands pays européens qui ont des défenses européennes et qui consacrent de l'argent à leur défense, comme c'est le cas de la France, est un sujet important pour l'Europe tout entière. Et donc faire sortir en clair l'effort d'équipement militaire des fameux critères de convergence de Maastricht.
Il faudra aussi de toute façon, un jour ou l'autre, qu'il y ait une politique étrangère commune pour l'Europe.
Oui, elle est censée exister. Ce n'est pas forcément ce qu'on a fait de mieux jusqu'à présent avec le haut représentant de l'Europe. C'est comme ça qu'on s'est laissé embarquer, que la France s'est laissé embarquer quand même par l'Union européenne dans la politique de sanctions à l'égard de la Russie. Donc, moi, je pense que la politique étrangère, elle doit rester du domaine des chefs d'État et de gouvernement, très clairement. Enfin, c'est le cas d'ailleurs de ce que disent les traités, même s'il y a un haut représentant. Voilà, et que la défense doit aussi, effectivement, rester du domaine de la souveraineté de chacune des nations, mais que l'Europe doit considérer cet effort. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu extravagante.
Il faudrait un effort coordonné, en réalité.
Oui, on est dans les domaines de ce qu'on appelle des coopérations. Quoi. Donc, voilà. Mais là aussi, l'Europe doit être juste un lieu de coopération.
Et Theresa May, qu'en pensez-vous ?
Écoutez, j'ai pas le privilège de la rencontrer ou de la connaître. Je pense que c'est une femme qui a l'air décidée, qui a un vrai défi à relever. Le vrai sujet, c'est chaque fois qu'un pays étranger désigne un chef d'État ou de gouvernement nouveau, je crois que le rôle des politiques françaises, c'est pas d'être commentateur, c'est de réagir à tout ça et de savoir qu'est-ce que ça signifie comme évolution et éventuellement comme opportunité nouvelle pour nous. Si les Anglais sortent de l'Europe, ça peut être effectivement un certain nombre d'opportunités. J'ai vu qu'une grande banque avait décidé de rapatrier près de 1000 emplois à Paris dans les mois qui viennent, sous l'effet du Brexit. Là aussi, ça doit nous inviter effectivement à saisir des opportunités. La Grande-Bretagne était devenue la première place financière dans le monde, notamment parce qu'elle avait un pied en Europe. Si demain ils sortent totalement des dispositifs de gouvernance européenne, à nous de redevenir la capitale européenne qui était partie à Londres.
Dernière question, monsieur le député. Votre avenir, vous le voyez comment ? Vous vous représentez ?
C'est un peu tôt, j'ai pas encore totalement...
Permets de vous poser la question parce que j'ai vu ça sur Internet.
Non, j'ai été investi par les Républicains. Bon, effectivement, c'est un mandat qui m'a passionné. Ce que j'espère très sincèrement, c'est qu'on sera dans une... être dans l'opposition, c'est bien parce qu'il faut que des gens s'opposent. C'est la règle de la démocratie.
Non, mais c'est bien aussi d'être dans la majorité.
Cela dit, être dans la majorité, on se sent encore plus utile. Donc, j'aimerais faire cette expérience de la majorité et que les droits demain députés dans la majorité, à condition que ce soit évidemment la bonne majorité, une majorité de redressement de ce pays.
Je vous remercie infiniment. Merci en tout cas d'être venu dans nos studios de Radio Grand Ciel. Merci à Roland Richard qui a enregistré cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, qui avez eu la gentillesse de nous écouter. J'espère que nous vous avons intéressés. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission de l'Écho de ma commune. Au revoir.
À bientôt.